France Culture, Soft bienvenue Power. Dans Soft Power.
Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
On peut le refaire une deuxième fois. Soft Power avec Frédéric Martel, c'est ça qu'elle disait la dame.
La dame disait ça, vous parliez en même temps qu'elle.
Oui, on parlait tous en même temps. Et puis les micros, ils marchent pas. Les micros marchent pas ce soir, très bizarre.
Non.
C'est le direct, voilà, c'est ça ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Alors on le refait. France Culture, 19h, passé de 11 minutes maintenant. Ça nous a fait perdre une minute. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. Désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. L'Agence française de développement OAFD, c'est 14 milliards d'euros par an, 85 agences à travers le monde et plus de 800 projets soutenus par an dans plus d'une centaine de pays avec plus de 2000 collaborateurs. Ce soir, Soft Power, mais sinon son chapeau d'explorateur, ça c'est ce qu'on faisait à l'époque, du moins sa casquette de banquier, car l'AFD est devenue une banque, pour partir à la rencontre de ce réseau immense qui gère aujourd'hui la coopération ou l'aide au développement de notre pays un peu partout à travers le monde. Et je reçois Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement. Bonsoir monsieur.
Bonsoir, merci.
Quand est-ce que vous avez été créé ? De quand date cette agence ?
Oh là, elle a une très belle histoire puisqu'elle remonte au 2 décembre 1941.
Pendant la guerre.
C'est le général de Gaulle à Londres qui à un moment éprouve le besoin de créer un instrument financier qui est le Trésor, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations de la France libre. Donc elle s'appelle la Caisse de la France libre. Et la belle histoire, c'est qu'il envoie des gens dans les colonies en Afrique qui rallient sa cause. À Brazzaville, à Dakar, en Ubangui-Chari, et ils trouvent là des réserves de change qui forment le capital initial de cette banque que nous rendons maintenant à l'Afrique par nos financements et les projets que nous accompagnons.
Ce soir, on parle de l'AFD et avec vous, on reviendra sur l'histoire de cette agence, son fonctionnement actuel, ses missions anciennes ou plus nouvelles. Et plus fondamentalement, on essaiera de comprendre quelle est la philosophie du développement aujourd'hui. Et comme vous avez dans vos missions également les industries culturelles, le sport et le numérique, on parlera avec vous de soft power, précisément du soft power de la France, à travers le développement et la coopération internationale. En début d'émission, nous reviendrons sur l'actualité de la semaine, le film Joker, les prix Nobel et Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, c'est pas lui qui a eu le prix Nobel, Emmanuel Pau, si vous ne suivez pas. C'est l'affaire médiatico-policière du week-end. Et avec vous, Emmanuel Paquette, on parlera de Google et Apple très, comment dire, coopérants.
Coopérant avec les autorités chinoises, effectivement, pour tout ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong, donc la suite des manifestations. Et du coup, les deux géants américains ont dû plier, alors contre leur gré pour certains, d'autres en disant que ce n'était pas du tout lié aux autorités chinoises, mais à d'autres éléments autour de jeux qui étaient payants autour des manifestations. Donc on verra comment Apple et Google ont dû se justifier d'avoir retiré de leur boutique d'application deux petits logiciels qui permettaient soit d'alerter les protestants, les manifestants de là où les forces de l'ordre étaient présentes, et un autre qui était un jeu de simulation des protestations à Hong Kong que Google a retiré de son Play Store.
Avec vous, Zoé Sfez, on donnera la parole à une critique de l'art contemporain avant la FIAC qui ouvre jeudi à Paris. C'est Aude de Kéros.
Oui, chef de file d'un mouvement, on peut dire, assez conservateur et qui regarde l'art contemporain, qui publie un livre aujourd'hui. Alors elle-même, elle est graveuse, on va savoir, elle fait de la gravure, elle est peintre. Elle publie un livre qui s'appelle Nouvelle géopolitique de l'art contemporain aux éditions Erol. Voilà, une certaine vision de l'art contemporain qui essaye d'analyser ce qui se passe avec un point de vue, on peut le dire, pour le moins tranché.
Soft Power, vous avez le programme, c'est parti pour ce soir, émission réalisée par Véronique Villa avec en régie Laurie Vachon. Elle est nouvelle ce soir, on commence avec une nouvelle équipe. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui, car vous pouvez suivre Soft Power sur Twitter au mot-clé Soft Power, avec également notre playlist Soft Power sur Spotify ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, deux pouces, hein, comme on dit, deux pouces vers le bas, pour un film très décevant et 2 pouces vers le haut pour un film inquiétant, complexe et très débattu cette semaine. La plus grosse catastrophe cinématographique de la rentrée et le plus grand succès également de la rentrée. D'abord, l'échec presque intégral du film Sœurs d'armes de Caroline Fourest, sorti ce mercredi. C'est assez triste, je dois dire, de devoir être si dur avec un film qui défend un sujet qu'on aurait vraiment envie de soutenir, à savoir la bataille d'un commando de femmes qui lutte en faveur des Kurdes de Syrie. Hélas, le film, basé, paraît-il, sur des faits réels, mais tourné au Maroc, avec notamment des acteurs française un peu BCBG, qui se croit un peu en safari en Syrie, est à ce point irréaliste que ça en devient presque ridicule. Les dialogues sont parfois grotesques, proférés par des actrices qui ne parlent souvent pas arabe et anglais avec un accent désopilant. Le film enchaîne les approximations, les erreurs, les invraisemblances. Selon le journal Libération, Caroline Fourest n'a pas compris que le cinéma, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas l'histoire binaire. Les gentilles filles, toutes mignonnes, qui combattent les très 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 méchants djihadistes. Le film d'Ilibé est filmé, joué, monté au bazooka. Parfois, Sœurs d'armes a des moyens de superproduction américaine, ce qui nous intéresse et nous surprend, puis soudain on tombe dans une mauvaise vidéo féministe ou un spot de déradicalisation. Quand l'enfant djihadiste, complètement endoctriné, est sauvé à la fin du film et retourne à ses jouets, on éclate de rire tant le film est caricatural. Le journal Politis le compare ironiquement à La Grande Vadrouille, une critique qui fait effectivement mal. Alors d'où vient un tel échec? Sans doute fallait-il une certaine prétention de la part de Caroline Fourest pour se vouloir auteur, scénariste et réalisatrice d'un long métrage français à gros budget quand elle n'a jamais vraiment fait de cinéma. Pourquoi des producteurs ont-ils parié sur une idéologue qui n'a ici, en tant que cinéaste, aucun talent. Le résultat est à la hauteur d'une certaine mégalomanie, sinon d'une réelle imposture. Et pourtant, on aurait aimé ce film, vu son sujet, vu l'enjeu des débats sur le terrorisme islamiste, vu l'importance de la question kurde cette semaine même. D'ailleurs, on ne comprend pas grand-chose dans ce film, tout noir et tout blanc. Qui combat qui? Pourquoi ces femmes sont-elles venues de France? Comment? Tout est invraisemblable. Le public a donné à Sœurs d'armes la pire note de la semaine sur Allociné et les critiques sont également consternées. Au box-office, évidemment, c'est un naufrage. Il est déjà parmi les pires sorties de l'automne. Si Sœurs d'armes de Caroline Fourest restera comme l'un des accidents industriel du cinéma français, Joker, qui est également sorti mercredi, est lui déjà l'un des succès de l'automne. Le film de Todd Phillips est basé, on le sait, sur le personnage de DC Comics. Il faut sans doute connaître déjà les codes des Batman pour décoder de nombreuses images de ce film. Le Joker, on le devine, c'est le super vilain qui affrontera bientôt, plus tard en tout cas, Batman. Jamais binaire, toujours complexe et même smart, le film est remarquable par son acteur hors norme, Joaquin Phoenix, éblouissant dans le rôle du Joker. Il a perdu 23 kilos pour ce tournage afin qu'on voit ses os émerger de son corps. Les images, les couleurs, le montage sont sublimes. La bande originale, avec notamment un titre de Nat King Cole, Smile, qu'on écoute, le sourire du clown peut-être, est belle, quoique très peu originale. Les références au temps moderne de Charlie Chaplin ou au Joker, interprété par Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton, sont subtiles et du coup éblouies. Une partie de la critique américaine parle de ce nouveau film à l'égal du Taxi Driver ou The King of Comedy de Martin Scorsese, ce qui est sans doute exagéré, même si Robert De Niro joue dans ce film dans le rôle d'un animateur de talk show. Au box-office international et français, Joker a déjà connu en 3 jours un succès exceptionnel. Les salles sont pleines partout en France et le public, comme à Paris mercredi soir lorsque j'y étais, a applaudi à la fin, phénomène qui devient fréquent pour des films de super-héros. Pourtant, on est ici face à l'histoire d'un super-vilain. Alors attention, spoiler maintenant, car le jeune Batman, bébé dans le film, nommé Bruce, vous comprenez maintenant ou pas, c'est à qui il aura bientôt affaire. Les clowns du Joker assassinent ses parents. Le succès en salle de Joker s'accompagne aussi d'une vive polémique. Le psychopathe Joker fait-il l'apologie de la violence et défend-il une thèse qui sert ou servirait les suprémacistes blancs? Le film fait-il involontairement une propagande pour les tuer de masse? Des dizaines d'articles ont été écrits aux États-Unis cette semaine pour défendre ce point de vue ou au contraire pour le dénoncer. On traite le film de raciste ou d'antiraciste, de pro-gun ou d'hostile à la vente libre des armes. Le FBI a émis lui-même une réserve sur le film, ce qui fut sa meilleure publicité. Ce qui est vrai, Joker est un film ambigu. Il se propose de décrire, sans le juger, un clown triste, dépressif, qui devient malade mental, puis psychopathe, et qui bientôt commet des crimes en série. Le Joker appartient-il à cette communauté qu'on appelle désormais aux États-Unis les incels, involuntary celibate, c'est-à-dire un célibataire involontaire, incapable de trouver une copine et devenant misogyne pour cette raison même. Et bientôt assassin d'ailleurs par ressentiment et faute de girlfriend. On s'interroge. Mais le serial killer donne naissance à un mouvement de foule contre les injustices, les inégalités et le cynisme de l'élite riche de Gotham, dont le spectateur avisé sait qu'il s'agit de New York. Une lecture marxiste du Joker est donc également possible, disons une lecture piquetienne du film. Le cinéma gagne lorsqu'il fait débat, lorsqu'il a des grilles de lecture complexes, contradictoires et qui ne sont pas binaires. Dans une époque difficile, les réponses aux questions complexes ne sont pas possibles. Pour l'avoir oublié, Caroline Forest signe l'un des plus mauvais films de l'année avec Sœur d'armes, quand Todd Phillips nous passionne avec Joker. Alors arrive-t-on avec ce Joker-là au niveau d'Orange Mécanique ou des Parrains de Francis Ford Coppola, comme certains critiques l'ont écrit? C'est sans doute au spectateur de juger, mais je serais plutôt enclin à éviter ces comparaisons extrêmes. Disons simplement que Joker, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Le cinéma, disait Serge Danet, marche sur deux jambes, l'art et le divertissement. Joker, c'est de l'entertainment mainstream américain pur, mais c'est aussi de l'art. Et surtout, c'est un film qui fait débat. C'est peu, c'est beaucoup. France Culture 18h22, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquette de l'Express OSFS de France Culture et notre invité de ce soir, Rémi Rioux, patron de l'Agence française de développement. Alors, fin de semaine complexe, Emmanuel Paquette, pour la presse et sa vérification de l'information, avec l'arrestation vendredi soir de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow, qui n'était pas le criminel escompté. Le Parisien d'abord, l'AFP ensuite, et tous les médias en boucle samedi matin. Comment dire, un emballement médiatique.
Oui, un emballement médiatique sur lequel est revenu le Parisien amplement aujourd'hui avec un article titré « 5 sources pour une fausse piste ». Et puis les excuses du directeur de la rédaction du Parisien, déjà au lecteur, et puis à la personne qui a été suspectée d'être le faux Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été donc arrêté en Écosse après avoir quitté Paris. Alors il faut savoir que le Parisien revient longuement sur son enquête pour se justifier, et il faut dire aussi que ses arguments tiennent plutôt la route, puisqu'ils ont eu 5 sources différentes pour avant d'écrire l'article, 5 sources qui n'avaient aucun rapport l'une avec l'autre, bien évidemment, qui est une des règles du journalisme, 5 sources qui ont confirmé l'information, comme quoi les empreintes données par donc la police écossaise confirmaient l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, ils ont relayé cette information, elle-même confirmée par l'AFP. Donc certes, un emballement médiatique, certes, la presse aurait sans doute pu et dû attendre, mais il se trouve que les sources, et donc plusieurs sources, sont également trompées. Donc ce n'est pas forcément un procès de la presse en tant que telle, mais en fait une erreur d'instruction, dans l'instruction et dans l'enquête qui a été répercutée par la presse
de
en général.
De manière massivement, un week-end où il n'y avait pas d'autres...
Exactement.
Pas beaucoup d'autres
et donc le plus gros scoop quasiment de l'année s'est vite transformé en... Effectivement, fake news pour le Parisien.
Zoé ?
Non, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est plutôt la manière dont chacun des médias qui a donc donné cette information comme une grande information, en plus, la presse écrite est celle qui probablement souffle le plus parce qu'il y a des unes et il y a du papier imprimé, donc c'est toujours particulier, et surtout quand quelques heures plus tard, on a un démenti. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'espèce de pédagogie que chacun a fait. Il y a le Parisien qui s'est expliqué, il y a Libé qui a fait un peu la même chose, et inversement, il peut y avoir comme une espèce de contre-exemple BFM TV qui avait donc installé une édition spéciale avec vraiment très peu d'informations au moment où on avait cette information qui en réalité n'en était pas une, et qui a continué son édition spéciale pour essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché, sans jamais en revanche mettre en question le fait qu'il l'avait relayé. Donc c'était un moment relativement intéressant aussi de voir comment l'information se construit, quelle est la hiérarchie en fait qu'on peut avoir dans certains médias entre où est-ce qu'on est dans l'informé, à quel moment on met l'informé en premier, où on met le fait de vendre du papier ou de vendre de l'audience à l'autre. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt une espèce de beau panorama de ce qu'est la presse française et de la manière dont à la fois elle travaille et elle explique comment elle travaille. Donc pratiquement les démentis étaient encore plus intéressants que la manière dont finalement cette information a ou pas été donnée.
Alors, information d'une certaine manière plus intéressante et surtout plus sérieuse, en tout cas confirmée jusqu'à présent, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, Premier ministre d'Éthiopie, récompensé Emmanuel Paquette pour son travail de paix avec l'Érythrée, le pays voisin.
Oui, en fait, c'est une double récompense. Une récompense déjà pour la politique intérieure menée en Éthiopie, puisque le Premier ministre qui a pris donc le pouvoir en 2018, comme vous le disiez précédemment, a depuis autorisé les partis d'opposition à revenir en Éthiopie, a amnistié plusieurs arrestations politiques qui avaient été faites par le précédent gouvernement, et a mis fin à une partie de la censure des médias qui avait lieu en Éthiopie. Donc ça, c'est pour la partie intérieure. Pour la partie extérieure, effectivement, il a mis fin à un conflit, enfin en tout cas mis fin. Certains diront pas totalement et pas complètement, mais il a commencé à tendre la main à l'Érythrée, qui a pris son indépendance en 91 et qui a ouvert ensuite un conflit depuis 1998. Donc c'est un conflit quasiment qui a duré 20 ans.
Plus de 80 000 morts à cause de violences frontalières.
Exactement, entre les deux pays. Alors maintenant, une ambassade éthiopienne a réouvert en Érythrée. Les communications téléphoniques ont été remises en état entre les deux pays, donc les familles peuvent à nouveau se parler, des familles qui étaient séparées, et un vol entre l'Éthiopie et l'Érythrée a même eu lieu, permettant à des familles de se réunir à nouveau. Donc tout ça est plutôt positif, mais il faut savoir que des tensions ethniques continuent tout le temps en Éthiopie, donc rien n'est vraiment réglé au niveau local en Éthiopie, et puis surtout il reste encore beaucoup de dossiers à pacifier avec l'Érythrée, notamment sur la gestion des ports, sur la mobilité entre les deux pays. Donc c'est un premier pas, mais seulement un premier pas. Donc on peut dire qu'avec ce grand prix vient vraisemblablement de grandes responsabilités, pour reprendre une phrase des super-héros.
De Spider-Man.
De Spider-Man, exactement. Et donc c'est ce qu'a bien voulu notifier le Nobel de la paix, c'est de dire
un peu le travail est fait. Un peu comme Barack Obama l'avait eu, c'est-à-dire au fond c'est pas pour le travail qui est fait, mais c'est plutôt un espoir pour la suite. Trop jeune, peut-être trop tôt, il a 43 ans, Premier ministre d'Éthiopie depuis 2018, c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie, donc c'est important pour l'Afrique. Peut-être Rémy Rioux, une réaction, puisque vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement, c'est des pays que vous connaissez.
Oui, moi je l'ai rencontré deux fois déjà, il est venu à Paris l'année dernière, et puis on est allé avec le président de la République en mars en Éthiopie, et donc oui, c'est une figure de réconciliation très étonnante. Hein. Vous n'avez pas mentionné que son papa est chrétien, sa maman est musulmane, il est au Romo, dans un pays dominé longtemps par les Tigréens, et puis pour vous, Frédéric Martel, c'est une figure de soft power. Hein. Le Premier ministre Abiy Ahmed, il a notamment, moi j'étais à Lalibela, vous savez, ces 11 églises creusées dans la roche, là, dans le pays Amhara. Il en fait un objet de réconciliation nationale, évidemment, ce patrimoine historique. Et puis j'étais au palais du Jubilé, alors là c'est étonnant, vous vous promenez, puis vous voyez les chaussons d'Haïlé Sélassié à la place où on les a laissés le 12 septembre 1974, quand il a été enlevé. Donc il y a ce mélange de jeunesse incroyable dans le pays le plus ancien du monde, en fait, jamais conquis. Le seul d'Afrique. Donc il y a un précipité là de quelque chose que le Nobel a reconnu, a récompensé.
Et pour je dirais presque l'anecdote, mais c'est presque un petit cadeau qu'on pourrait vous faire. Il se trouve qu'il a un prédécesseur, ce premier ministre d'Éthiopie, assez ancien, qui s'appelle Alfred Ilg. En fait, c'est un jeune ingénieur suisse qui était parti pour l'Abyssinie à 24 ans et qui, à cette époque-là, c'est des territoires un tout petit peu différents, mais va diriger les travaux publics, construit des maisons, des routes, des ponts, et devient le conseiller technique du roi Ménélie, qui le consulte même sur les questions de politique étrangère, et qui le nomme premier ministre en 1880. 1996, donc ça fait assez longtemps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis, on a découvert des lettres très nombreuses, c'est un livre complet que j'ai là, qui sont les lettres que ce Premier ministre éthiopien a échangées avec Arthur Rimbaud. Et donc, c'est assez beau de savoir que les Premiers ministres éthiopiens parfois écrivent aux poètes. Peut-être que celui-ci aussi écrira à d'autres poètes et on verra si oui, c'est ce qui se passe.
C'est les liens entre la France et l'Éthiopie qui sont très très anciens par la culture. Le même roi Ménélik, c'est lui qui nous a donné le terrain de l'ambassade de France à Addis, qui vous savez le plus grand du monde. On a, je sais plus, 40 hectares, ce qu'il a tracé lui-même comme ça dans une promenade à cheval.
Il dit voilà, les Français auront tout ça.
Exactement. Voilà. Un peu plus grand que les Italiens même.
Bien, on voit que l'AFD continue à s'occuper de nos territoires. Zoé Sfez, deux autres prix Nobel cette semaine. Alors là, c'est de littérature qu'il s'agit.
C'est de littérature, c'est une année donc particulière parce que l'Académie a donc remis deux prix à la place d'un. On en a largement parlé ici sur cette chaîne. Pourquoi ? On le rappelle parce que l'année dernière, juste avant la remise du prix Nobel de littérature, l'Académie avait été éclaboussée par un énorme scandale puisque le mari de l'une des académiciennes, qui est un Français, était accusé de viol et de harcèlement sexuel par 18 femmes, mais aussi de conflits d'intérêts. Donc, résultat des courses, tout le monde avait démissionné avant de pouvoir remettre ce prix. Entre-temps, une académie s'est reconstituée. Et alors, il était relativement intéressant de regarder ce que cette académie allait donner comme prix, en remettant deux, d'une part, et aussi parce que les deux derniers prix Nobel remis, à savoir celui de la Svetlana Alexievitch, biélorusse, en 2015, qui était un prix très journalistique, puisque c'est une journaliste qui a fait de romans à partir des enquêtes qu'elle avait faites, et puis l'autre, l'avant-dernier, avait été quand même remis à Bob Dylan et avait suscité beaucoup de débats, puisque nous sommes avec un parolier, un artiste dans cette grande nature, donc deux prix ont été remis.
Il avait été défendu dans cette émission, vous imaginez bien.
Il avait été défendu dans cette émission, il avait été attaqué dans d'autres émissions de cette chaîne, mais enfin, la question était aussi qu'est-ce que le prix Nobel doit sanctionner. Alors là, on revient avec deux Européens de l'Est, un homme et une femme. Alors, dans l'ordre, une femme, c'est donc la Polonaise Olga Tokarczuk, que vous connaissez bien, Frédéric Martel, vous connaissez ses livres ?
Oui, en tout cas, Flight, c'est le titre anglais que j'avais lu, parce que quand on va en Pologne, ce qu'on a fait pour cette émission plusieurs fois, les gens nous parlaient, tout le monde nous parlait d'elle, puisqu'elle était vraiment l'auteur national très lu, figure de l'opposition, d'ailleurs, c'est important, ces jours-ci, Et en tout cas, ce roman Flight, qui a été traduit en français, elle avait eu déjà le Man Booker International Prize en 2018. Donc, c'est une auteure érudite, avec des références historiques complexes, mais en même temps, souvent très courts, dans des petits chapitres, et tout ça est imbriqué, et ça crée un monde formidable, ce qui est tout à fait différent de Peter Handke.
Tout à fait, mais alors, ce qui est intéressant quand même avec elle, c'est que vous l'avez dit, c'est une femme, on pouvait s'y attendre avec une année où il y avait eu un scandale de cette ampleur. Elle est européenne, elle est effectivement polonaise, mais dans une opposition de gauche, à un moment politique qui est important pour la Pologne. Elle a fait une littérature très littéraire, et en même temps, c'est une auteure entre guillemets jeune, puisque son premier roman date de 2009. Son œuvre a à peine 10 ans. Ça, c'est suffisamment rare pour être remarqué dans le Nobel. Et puis, effectivement, celui de cette année, c'est Peter Handke, auteur autrichien. Auteur, alors lui, pour le coup, beaucoup plus connu. Certains avaient dit, j'étais sûr qu'il l'avait, ce qui était un peu absurde, mais c'est un auteur qui écrit depuis les années 70. Auteur de romans, mais qui a un théâtre aussi extrêmement connu, notamment une pièce par les villages qui est très citée, et qui en même temps fait beaucoup polémique. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur qui a défendu, alors qu'en plus on va dire que ses affinités politiques n'étaient pas tout à fait de ce côté-là, a défendu Slobodan Milošević et d'une certaine manière la politique serbe pendant la guerre. Et donc cet auteur qui est à la fois célébré fait l'objet de vives critiques, et particulièrement en France. Il y a une tribune dans Le Monde qui est parue avec Sylvie Maton et Olivier Py qui rappelle que il est absolument très clair dans ses intentions sur l'ex-Yougoslavie. Très clairement, il a publié d'ailleurs un livre qu'on avait un petit peu oublié, Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina, publié en 96.
Oui, c'était un défenseur clair
du revisionnisme
de Milošević. Alors après,
voilà. Donc quel symbole envoyer ? Alors on est sur deux Européens de l'Est. On a d'une part un espèce de symbole d'ouverture ou de militantisme avec ce symbole, avec cet auteur-là, et de l'autre côté, on a cette mise en valeur de Peter Handke, dont les qualités littéraires ne sont absolument contestées par personne, mais qui en même temps, c'est une certaine vision de l'Europe à un moment donné où on traverse un Brexit. Donc il y a un espèce de message un peu ambigu avec ces deux Nobel de littérature, même si clairement les qualités littéraires des deux candidats, contrairement à Dylan par exemple, ou même Svetlana Alexievitch, que certains qualifient d'excellente journaliste mais pas particulièrement de bonne romancière, ne font pas débat.
Alors, font pas débat, et en même temps, Olivier Py avait fait une grève de la faim pour la guerre en Bosnie, donc c'est tout à fait légitime qu'il monte au créneau et qu'il soit un peu furieux. En même temps, la littérature est la littérature. Est-ce qu'on récompense une œuvre ou est-ce qu'on récompense un parcours politique? C'est un débat éternel. Pour Dylan, il y avait à la fois l'œuvre et le parcours politique, sans doute pour Peter Handke. C'est une manière de répondre ce que vous avez dit.
C'est une manière finalement d'imposer
pour
votre avis.
Peter Handke, pour Peter Handke, il y a clairement l'œuvre, il n'y a pas sans doute ce projet politique, voilà, c'est ainsi. Dernière actualité peut-être de cette semaine, Emmanuel Paquette. Alors ça se passe à Hong Kong ce coup-ci. Google et Apple, on l'a dit en début d'émission, cherchent à pacifier leur relation avec la Chine, parfois au mépris des Hongkongais.
Oui, au détriment des manifestants hongkongais, puisque les manifestations continuent. Et il se trouve effectivement que Apple a décidé de mettre fin à la distribution de l'application qui s'appelle donc HKMap.live, dont on avait parlé dans notre émission il y a quelques semaines, qui permet en fait aux manifestants de savoir où se trouvent les forces de police sur une carte qui est faite et qui est alimentée dynamiquement par tous les manifestants en temps réel. Alors il se trouve que devant l'ampleur des réactions, notamment des créateurs de cette cartographie sur Internet et puis des manifestants hongkongais, Tim Cook a dû prendre la parole, donc le PDG d'Apple, pour se justifier. Et il a dit qu'en fait, cette application permettait de géolocaliser directement des policiers et que ça mettait donc leur vie en danger. En réalité, cette application ne fait pas du tout ça. Elle montre simplement des réunions et des manifestations des forces de l'ordre, mais aucune personne n'est géolocalisée sur cette carte. Donc la justification paraît un peu faible, si ce n'est plus, concernant Apple. Et cette même semaine, c'était au tour aussi de Google de retirer de sa boutique d'application un jeu qui s'appelait donc la révolution de notre temps. Donc c'est un petit jeu de simulation des manifestations hongkongaises. Et là, Google l'a retiré simplement en disant que cette application permettait de faire de l'argent. Et même si cet argent était reversé aux manifestants, ils considéraient que c'était un détournement des règles de conduite de Google pour distribuer une application, qu'on ne pouvait pas s'amuser avec un jeu autour de manifestations. Et donc ils ont tout simplement retiré aussi cette application. Donc on voit qu'aujourd'hui, la Chine arrive à dicter quand même son pouvoir à deux grandes multinationales américaines. Tout ça sur un fond de négociation commerciale entre Trump et la Chine, qui a eu lieu cette semaine, qui a repris cette semaine, puisque Donald Trump essaye aussi de pacifier ses rapports avec la Chine. Donc on voit qu'aujourd'hui, il ne fait pas très bon de se mettre à dos la Chine quand on veut faire des affaires.
C'est en tout cas un dossier chaud pour eux, tout ce qui se passe à Hong Kong. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir une nouvelle fois, sans doute en novembre, avec une émission sur ces questions à nouveau. Zoé Sfès, pour terminer, on n'a rien dit, on a oublié l'homme de Vitruve, sur lequel on sera d'accord d'ailleurs, sans doute.
Probablement.
Plus que sur Bob Dylan, allons-y.
Non, mais moi aussi j'étais d'accord sur Bob Dylan, mais tel n'est absolument pas le sujet. Non, vous vous rappelez, nous en étions fait l'écho lors de notre grande émission dédiée à Léonard de Vinci. Vous le savez que 2019, c'est une grande année, après toute une série de grandes expositions en Italie pour célébrer le 500e anniversaire de la mort du maître. Une grande exposition doit débuter dans quelques jours à Paris, qui rassemble 160 œuvres du maître et autour de lui, avec énormément de prêts attendus en Italie. Et déjà, lors de l'élection de celui qui est désormais l'ex-premier ministre président du Conseil italien, Matteo Salvini avait tenté d'utiliser en tout cas ses prêts pour faire pression politiquement sur ses rapports avec la France. Entre-temps, quasiment toutes les œuvres qui devaient être prêtées l'ont été, ou en tout cas sont en route pour Paris, puisqu'elles arrivent toutes en ce moment, ces jours-ci. Et là, on apprend que l'homme de Vitruve, donc ce célèbre dessin que vous connaissez tous, qui est conservé au Galleria dell'Accademia, qui est à Venise et qui doit faire partie de ces expositions, eh bien, pour le moment, n'a toujours pas quitté l'Italie. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif de la Vénétie a décidé, pour le moment, de le mettre sous scellé. En fait, il a été saisi par une association nationaliste proche de la Ligue du Nord, qui en tout cas ne veut pas que ce dessin quitte l'Italie pour des raisons, alors théoriquement des raisons de vétusté, parce que ce voyage mettrait cette œuvre en danger. En réalité, évidemment, il y a un agenda politique derrière. Le ministre de la culture italien s'est lui-même étonné de la décision de ce tribunal, mais effectivement, il n'a pas de main dessus. D'ici là, en l'occurrence, d'ici le 24 octobre, on aura une nouvelle décision, puisque évidemment, le gouvernement a fait appel. On n'est absolument pas certain aujourd'hui que ce dessin fera partie de l'exposition à Paris, mais là encore, on voit à quel point l'Italie, et notamment ses associations, aujourd'hui utilisent ce grand moment culturel français pour essayer de, en tout cas, de continuer à exister.
Voilà, une œuvre que tout le monde connaît, puisque c'est, vous savez, cet homme avec les bras...
Les mains tout autour d'un cercle.
Absolument. À suivre dans Soft Power, le directeur de l'Agence française de développement, Rémy Rioux, c'est mon invité ce soir, jusqu'à 19h30. Et dans un instant, Aude de Kéros, auteur de nouvelles géopolitiques de l'art contemporain, en avant-première de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, qui commence ce jeudi à Paris. Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. Mais juste avant tout ça, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, le nouvel album d'Ibrahim Malouf sur France Culture, Sens, avec un E écrit à l'envers, comme un sens à l'envers, avec un chiffre 3, sorti le 27 septembre. Avec ce morceau, Una Rosa Blanca, dans lequel il rend hommage au rapprochement entre les États-Unis et Cuba sous Barack Obama, des paroles qui sont d'ailleurs et étrangement incluses dans ce titre, vous allez l'entendre, qui paraissent, sous Donald Trump, bien oubliées, bien éloignées. Le trompettiste franco-libanais qui est en tournée hier soir à Toulouse, ce soir à Bordeaux, 19 octobre à Lille, 26 à Grenoble, le 27 à Lyon, le 16 et 17 novembre à La Rochelle, le 23 à Dijon, le 24 à Nancy, le 1er décembre à Marseille. Ibrahim Malouf sur France Culture.
In his most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h42 sur France Culture, Zoé Sfez.
Et bonsoir, alors nous accueillons ici Aude de Kéros. Alors vous êtes artiste, vous êtes graveuse, vous êtes peintre. On vous invite parce que cette semaine s'ouvre à Paris la FIAC, mais aussi toute une foule de foires, outsider, off, en parallèle. Vous êtes donc, je l'ai dit, peintre, vous écrivez sur l'art contemporain, ce que vous appelez l'art contemporain global ou international, et vous représentez avec une auteure comme par exemple Nicole Estérol, alors c'est un pseudonyme, une aile particulièrement, on peut le dire, conservatrice, en tout cas, vous vous situez plutôt à droite avec une vision que vous voulez, en tout cas en défense d'un art qui serait un art que vous appelez parfois caché ou qui serait l'antithèse de ce que vous appelez l'art contemporain. Vous avez publié plusieurs ouvrages, vous publiez des chroniques régulièrement dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Causeur. Votre dernier ouvrage, donc, il s'appelle « Nouvelle politique de l'art contemporain », sous-titré « Chronique d'une domination économique et culturelle ». Donc le sous-titre est un programme en lui-même. Alors c'est un ouvrage extrêmement documenté, mais aussi, je crois qu'on peut le dire, assez partisan, sans concession. En tout cas, vous dites parfois que vous n'êtes pas assez dans les médias, donc nous vous invitons. Alors vous, j'aimerais d'abord qu'on commence à comprendre pourquoi vous l'avez décrit dans vos ouvrages précédents. Pourquoi est-ce que vous envisagez l'art contemporain comme un art qui n'est finalement pas de l'art ? Pour vous, vous dites que tout est devenu art sauf l'art. Vous dites que la notion de valeur artistique a été évincée au profit de la transgression.
Oui, parce que tout d'un coup, il y a eu, à un moment donné, un schisme, si on peut dire, dans le domaine de l'art qui devient vraiment net à partir des années 60. Je pense que ça vient du soft power américain qui avait complètement échoué avec l'art abstrait qu'il avait pris comme cheval de bataille pour dire que la modernité se trouve en Amérique et plus du tout en France, et que le vieux continent ne peut plus donner aucune œuvre d'art, d'avant-garde, étant donné qu'elle était usée, morte après cette guerre. Et comme ça ne marchait pas, pendant les années 50, tout le monde entier était à Paris, il y avait tous les courants possibles de l'art qui étaient là.
Mais y compris des Américains, par exemple.
Y compris les Américains, qui étaient extrêmement présents. Et il y avait tous les courants, il y avait toutes les idées. Il y avait les communistes, qui étaient plutôt dans le réalisme socialiste. Mais il y avait aussi un art académique qui était encore présent. Il y avait absolument tout, parce que en dehors, passons aux années 60, cette politique échoue, et ils ont trouvé ce moyen merveilleux de faire en sorte que l'Europe ne puisse pas garder ce monopole de la modernité. Et le choix du conceptualisme comme unique courant qui serait contemporain, alors le mot contemporain n'arrive qu'en 1975, non, mais qui serait d'avant-garde, que les Américains ont mélangé d'ailleurs avec le pop qui venait d'Angleterre, parce que c'était vraiment là qu'il est né. Il faut se dire que en 1955, à peu près tous les artistes abstraits qu'ils avaient mis en avant étaient morts. Donc il y avait une panne d'avant-garde. Ils ont donc fait une sorte de mixage. C'est Castelli qui a eu le génie de trouver un courant qui serait new-yorkais. Alors, mélangeant le surréalisme, le pop, le kitsch, pas encore le kitsch qui va devenir très fort après, et puis le conceptuel. Donc, Marcel Duchamp qui vit d'ailleurs à New York. Donc, en fait, il y a là une nouvelle définition de l'art qui apparaît, qui est, pour ainsi dire, plutôt conceptuelle, et où c'est le concept qui compte et non pas la forme. Alors que, à partir de ce moment-là, vous avez vraiment une coupure qui se fait, et ça a très très bien marché, et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre culturelle qui, on peut dire, en 1975 était gagnée.
Alors ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut vraiment mettre du débat, parce que vous, effectivement, vous partez du principe que ce que vous appelez l'art contemporain est dominé par cette idée de concept, là où votre analyse par contre est peut-être plus argumentée et partagée par plus d'auteurs d'ailleurs, c'est que vous décrivez, et ça vous le faites dans ce livre, la financiarisation de cette industrie de l'art contemporain, avec notamment une date en 2000 assez importante où deux grandes maisons, les deux plus grandes maisons de vente, Sotheby's et Christie's, créent un département d'art contemporain qui sera détaché donc de l'art moderne et qui va donner lieu à de grosses, on va dire, de grosses spéculations. Vous décrivez plusieurs périodes avant 91, avant la chute de l'Union soviétique, puis ensuite de 91 à 2000 et puis jusqu'à 2010. Vous parlez de ce moment où la financiarisation est très forte et où on a effectivement l'émergence de ces foires. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces grandes foires comme la FIAC à Paris?
Alors, ça a été au début des années 70, dès la fin des années 60, une politique pour délocaliser le centre de l'art moderne du monde, hein, puisque tout le monde venait à Paris pour se faire consacrer. Donc il fallait plus qu'on aille à Paris. C'était les galeries parisiennes, c'était tout ce bouillonnement de courants dans tout genre qui était encore l'attraction du monde entier. Il fallait le délocaliser, et les foires ont permis ce genre de choses. C'est-à-dire que les galeries sont venues dans les foires, et il fallait être coopté, si on peut dire. Donc il y a eu une sorte de cooptation qui s'est faite pour véritablement orienter tout vers le conceptuel, pour qu'il y ait cette fracture, que les savoirs de l'Europe, la suite des courants modernes ou traditionnels qui avaient tous cours en même temps, puissent être mis de côté, et il n'y aurait qu'un art. Et pour que cet art puisse véritablement exister mondialement, il fallait que ça soit celui qui soit le financièrement le plus important. Or, on pouvait créer un marché financier de l'art à New York beaucoup plus facilement qu'un véritable lieu de rencontre de l'art du monde entier. Et il fallait commencer par ça.
Mais alors ça vous dites très souvent, en fait, vous utilisez des constats que d'autres partagent avec vous, notamment économiquement, effectivement, sur la manière dont il y a un système aujourd'hui qui fait que ceux qui financent l'art sont aussi ceux qui l'achètent, qui permettent de le donner dans des musées, qui vont donc coopter un art qui a été acheté, etc. Néanmoins, ce système-là que d'autres critiquent avec vous, y compris des gens qui font partie de ce marché de l'art, notamment je pense à Nathalie Obadia dans son dernier ouvrage qui est
oui,
elle-même
qui le dit elle-même.
Et, oui. qui, et qui pourtant a un discours très critique sur son propre champ. Vous faites comme si tout ça était une volonté, comme si tout ça venait d'une petite classe du soft power américain qui
non,
avait
pas
tout
du tout. Je dis pas ouais. ça. De toute façon, depuis quelque temps déjà, c'est quelque chose qui est pris en charge, je dirais, au-dessus des États, par les grands collectionneurs et, je dirais, tout ce qui est l'argent international qui circule dans le monde. Parce que cet art, n'est, en fait, a toutes sortes de fonctions qui sont des fonctions économiques. C'est un moyen de faire circuler des biens et de l'argent en passant par-dessus les frontières. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails de toutes les possibilités qu'offre l'art contemporain pour la circulation d'argent sale ou pas sale. Donc, ça a été pris en charge, en réalité, plus par le circuit international. Je pense que la CIA, surtout depuis Trump, a pris des distances par rapport à ça. Mais n'empêche que le soft power...
En faisant sauter notamment les niches fiscales. Donald Trump a fait sauter un certain nombre de niches fiscales qui font qu'effectivement, il y a eu une chute de 10%.
Oui, qui avait fait de New York, d'ailleurs, le centre du monde pour ça. En fait, c'est une histoire quand même excessivement complexe où il n'y a pas que la volonté politique. Il y a eu simplement l'adhésion à ces facilités par des intérêts particuliers et par des réseaux. Parce que c'est pas une chose monolithique, l'art contemporain. Le marché de l'art contemporain, ce sont des réseaux qui sont dans cette grande circulation. Et il faut bien se dire que, comme dans l'art conceptuel, ce n'est pas la valeur intrinsèque de l'œuvre qui serait une œuvre géniale, inspirée d'une forme absolument inouïe qui appelle l'émotion, la contemplation et tout ça. L'art contemporain n'est pas de ce domaine. Il est, comme dit Nathalie Obadia...
On peut le dire autrement, mais là-dessus, on serait peu ou pas d'accord avec vous.
Oui, mais Nathalie Obadia le dit elle-même. Elle dit la fonction de l'art contemporain, dans sa dimension vertueuse, c'est de défendre les valeurs sociétales. Alors, ce qu'on demande aux artistes contemporains, et c'est comme ça qu'ils rentrent dans la grande boucle, et c'est comme ça qu'ils peuvent circuler de foire en foire et de galerie en galerie, c'est qu'il faut qu'un artiste prenne en charge une valeur sociétale à défendre pour pouvoir être coopté et entrer dans le circuit. Alors, ces valeurs sociétales sont, il y en a trois ou quatre ou cinq qui sont, disons,
le multiculturalisme, etc.,
qui intéressent
concrètement, vous rejetez
et d'autres pas. Mais je vous dirais que pour un artiste qui n'est pas de ce courant, qui reste dans un courant de l'inspiration et la main, et il y en a beaucoup, à droite comme à gauche, comme au milieu et comme partout, parce que Nicole Estérol et moi, et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, nous n'avons absolument pas une démarche politique, on a une démarche artistique dans ce domaine. Et on se connaît et on parle de tout ça sans aucune difficulté.
Mais néanmoins, je vous concluais ce livre sur une conclusion avec d'autres aussi, sur l'idée qu'il y a la fin d'une hégémonie américaine, à la fois avec la politique de Donald Trump, depuis la crise
financière. Mais c'est pas à cause de lui.
L'existence aussi d'émergence de périphérie dans un contexte un peu plus polyphonique. Vous accordez aussi beaucoup d'importance à ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux, l'open data, Instagram, qui permet à d'autres artistes d'exister à côté. Donc pour vous, ce constat est relativement bon. De facto, la FIAC s'ouvre cette année avec, comme toujours et de plus en plus comme les années précédentes, toute une série de foires, notamment l'Outsider Art Fair qui sera aux ateliers Richelieu et dont on reparlera évidemment l'année prochaine. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que ce livre s'appelle donc Nouvelle Géopolitique de l'art contemporain. Il est paru aux éditions Erol. Et pour un avis peut-être un peu moins tranché et un espèce de guide de cette FIAC, je conseille le livre de Roxana Azimi qui est critique d'art, le guide Azan de l'art contemporain, et l'excellent livre de Nathalie Obadia que nous avons évoqué, Géopolitique de l'art contemporain, qui est paru en mars dernier.
France Culture, 18h précisément 54. Vous écoutez Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30. Ce soir, je reçois Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement. Alors, l'Agence française de développement, ou AFD, c'est 14 milliards d'euros par an, 85 agences à travers le monde, plus de 800 projets soutenus dans 115 pays et une équipe d'au moins 2500 collaborateurs. Créée à Londres en 1941, vous l'aviez rappelé en début d'émission, Rémi Rioux, par le général de Gaulle. Vous-même, vous la dirigez désormais depuis... ça fait combien de temps que vous avez été nommé? Ça fait 4 ans, c'est ça? 3 ans et demi?
3 ans et demi, oui, bientôt.
Vous avez été renouvelé en juin dernier par le président de la République. Je signale d'ailleurs que vous êtes historien de formation. Au passage, on peut le dire, puisqu'on l'adore dans cette émission, et moi particulièrement, vous êtes le fils de Jean-Pierre Rioux. Et par ailleurs, comment dire, aux fonctionnaires qui évoluent, comment on passe de l'histoire à la Cour des comptes et finalement à l'AFD?
Oula, vaste question. Ben, à un moment, il ne faut pas faire comme son papa, donc on commence comme ça. Donc moi, j'ai fait des études d'histoire, effectivement, sur Michelet, sur Monod. J'avais un oncle aussi que j'aimais chèrement, qui s'appelle Paul Vialanet, qui est le grand spécialiste de Michelet. Et puis bon, à un moment, on part faire autre chose, mais on garde le sens du temps, le sens de l'histoire politique très courte, de l'histoire des structures très longues, et je crois que ça me nourrit. Et ça m'enrichit dans mon travail aujourd'hui, s'agissant de développement, s'agissant d'Afrique, s'agissant de ce développement durable que nous devons libérer.
Cour des comptes, Trésor, Bercy, Intérieur, vous avez été en charge de la diplomatie économique de Laurent Fabius, vous avez été directeur de cabinet de Pierre Moscovici, je ne vais pas revenir sur tout votre parcours, mais au fond on a l'impression qu'on a d'abord voulu, à la tête de l'AFD, quelqu'un qui tient l'agence budgétaire, quelqu'un qui sait, Bercy, etc., qui sait que 14 milliards, c'est beaucoup d'argent, même si c'est des prêts, on y reviendra, et qu'il faut que tout ça d'abord soit bien géré.
Vous avez raison, hein, c'est l'argent des Français. On le dépense, on l'utilise dans de très nombreux pays, très différents, avec des risques, et donc on est très attentif, bien sûr, à l'usage qui en est fait pour pouvoir montrer des résultats de développement et puis aussi montrer qu'il y a de plus en plus de liens utiles qui concernent les Français entre ces 115 pays dans le monde et nos territoires, nos propres enjeux. Et moi, je crois que si je suis à la tête de l'agence, c'est peut-être pour cette rigueur, je l'espère, ce sérieux, mais c'est aussi, vous l'avez rappelé, parce que j'ai alterné des fonctions nationales et internationales. Et donc le développement, c'est pas quelque chose qui nous concerne pas. C'est pas quelque chose juste parce que la France est solidaire et généreuse. Je crois que il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi actuel aujourd'hui où nous cherchons les solutions pour réussir des transitions sur le climat, sur les inégalités, tous les grands sujets du moment.
Alors ça veut dire beaucoup d'argent, mais donc un esprit, une sorte de frugalité, un peu spartiate comme ça. Est-ce que c'est aussi, à sa façon, l'esprit du général de Gaulle, créateur de cette agence?
Oui, alors il y a eu un très grand directeur général qui s'appelait André Postel-Vinet, donc un protestant un peu sérieux, qui est resté plus de 30 ans fidèle du général, la tête de l'agence, donc il l'a très profondément marqué. Oui, donc c'est une institution financière qui prend soin des moyens qui lui sont confiés.
Je vous propose, et on ne pouvait pas ne pas le faire, on ne pouvait pas ne pas l'entendre, d'écouter le général de Gaulle, justement, parlant de coopération. C'est un peu plus tard, puisque ça va être dans un discours à Saint-Louis du Sénégal le 12 décembre 1959. On l'écoute, une archive INA.
Il faut que les Français, les Africains et les Malgaches restent étroitement ensemble. Il le faut à cause des hommes de ce grand continent qui veulent et qui méritent le progrès. Il le faut à cause de la France, dont le concours implique des liens qui soient réciproques. Il le faut pour que nous puissions représenter et faire valoir dans le monde l'idéal qui nous est commun. Il le faut pour que l'ensemble fraternel que nous sommes et qui est un élément d'équilibre dans le monde et un exemple, que cet ensemble persiste.
le général de Gaulle. Au fond, reprendre le contrôle dans un monde qui reste ouvert, vous m'aviez dit ça lorsqu'on a préparé cette émission, ça serait un peu ça la mission que vous a confiée finalement le président de la République au nom de la France, à la direction de l'Agence française de développement, dans un monde trumpien, brexitien, sans parler de l'Italie et de certains pays d'Europe centrale et orientale, qui n'est pas forcément celui qu'on aime.
Ah ben en tout cas, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y a deux grandes propositions politiques aujourd'hui sur la table dans chacun des pays du monde. Il y a une proposition de repli, disons, gérons nos affaires chez nous,
tout seul.
Ça, c'est une proposition qui a beaucoup d'attrait. Hein. Vous avez raison, c'est celle de Donald Trump, hein, beaucoup d'aspects, qui se faufile d'ailleurs jusque dans la politique de développement, puisque nos collègues de USAID, qui est un peu l'AFD américaine, eux, ils disent « journey to self-reliance », donc un voyage vers l'autonomie, ce qui peut sembler séduisant. Mais
alors que vous répondez «
monde en commun ». Moi, je propose un voyage
monde
vers la réconciliation, moi, vers un monde en commun. C'est-à-dire, et je crois effectivement, c'est le mandat qui m'a été confié, arriver à démontrer à nos concitoyens qu'il y a un intérêt certain à rester ouvert et à être très actif, parce que les Français savent que le pays est ouvert, que les enjeux climatiques, de biodiversité, les inégalités, la mondialisation sont là, mais arriver à leur démontrer qu'on a une capacité d'action, je crois que c'est ça, d'engagement, et c'est ce que vous l'avez dit, par 800 projets chaque année, hein, on en refait des nouveaux chaque année, apporte l'Agence française de développement, en montrant qu'on peut faire des choses utiles et créer du lien entre des acteurs français et des pays étrangers, des acteurs étrangers.
Intellectuellement, cette philosophie, elle s'appuie sur quel type d'idées, au fond ? Je m'adresse un peu à l'historien, là, mais c'est les lectures, les auteurs, pour définir ce monde en commun, c'est une expression, c'est hashtag monde en commun, c'est-à-dire, au fond, votre logo, votre, comment dire, on appelle ça la phrase.
Raison d'être.
La phrase qui définit votre agence.
À la notion du développement plutôt anglo-saxonne, qui, je crois, repose sur des piliers philosophiques un peu différents, et qu'on connaît peut-être paradoxalement mieux.
Disons que je cherche des mots, les mots plus purs pour la tribu, hein. C'est par un mot, c'est mal armé là, pour exprimer ce qui s'est passé en 2015. Vous savez qu'en 2015, il y a eu de grands sommets internationaux, l'accord de Paris sur le climat, les objectifs de développement durable auxquels tous les pays du monde ont souscrit. Et la politique de développement a changé de dimension, en fait. Jusqu'à présent, elle ne marchait que dans un sens et avec une seule dimension. Vous aviez des pays dits sous-développés et des pays développés. Et tout l'objectif était que ces pays sous-développés rattrapent les pays développés. Et la mission de l'AFD, finalement, c'était tout simple. C'était de financer ces pays pour qu'ils deviennent comme nous. Donc ça, c'est le monde de la coopération, du développement.
Mais si on fait ça, le développement durable n'est pas possible.
Exactement. Le monde a changé de dimension. On a rajouté une deuxième dimension maintenant, qui est la dimension planète. Il n'y a pas que les gens, il y a aussi la planète, l'empreinte écologique, la dégradation des sols, du climat. Et quand vous déployez le monde de cette façon, vous voyez que vous avez deux grands groupes de pays, des pays pauvres, mais qui ne dégradent pas la planète, et puis des pays très riches. La France, hein, les États-Unis d'Amérique, vous les avez cités, qui dégradent massivement la planète, qui sont sur un modèle totalement
insoutenable. Donc ça veut dire que l'objectif désormais, ce n'est plus que les uns rejoignent les autres, mais que
l'objectif,
tous les autres,
c'est que voilà, tout le monde atterrisse. C'est le mot de Bruno Latour, atterrisse dans une zone où on est tous en bonne santé, où on est tous à peu près bien éduqués et où on a un mode de consommer, de vivre, de produire qui fait que les ressources sont renouvelées.
Ça veut dire que c'est pas eux qui changent pour venir devenir
comme nous.
C'est tout le monde qui change à la
l'autre
fois.
Leçon actuelle, c'est que les solutions, on n'a pas les solutions, il faut être clair. Et les solutions sont en train de naître partout dans le monde, y compris, frugal, vous l'avez dit, dans des pays très pauvres. Et donc, vous voyez, la mission d'une maison comme l'Agence française de développement change complètement. C'est plus seulement dans un seul sens apporter les bienfaits, les ressources financières, l'expertise de la France. C'est ça, bien sûr. Mais c'est aussi repérer et ramener en France, dans l'intérêt de nos concitoyens, les solutions qu'on repère. Et moi, dans tous mes voyages, j'en trouve.
Est-ce que ça veut dire, du coup, que le développement durable est au cœur de l'ensemble de vos projets et que vous, c'est un critère ?
Alors nous, on est, notre stratégie, pour un monde en commun, ça veut dire qu'on est 100% accord de Paris. Tous nos projets doivent avoir un bénéfice pour la planète. Et on est 100% lien social. C'est-à-dire qu'on vérifie, hein, jusque dans nos procédures internes, que ce que nous finançons est bon pour la planète et bon pour les hommes. Et renforce le lien social dans les sociétés où nous intervenons.
Alors, on a parlé un peu ADN, philosophie. Maintenant, parlons budget, Emmanuel Paquette.
Il se trouve que l'AFD avait un budget de 7 milliards en 2012 et qu'a priori, vous devriez atteindre quasiment 18 milliards, enfin 17,9 en 2022. C'est ce que veut Emmanuel Macron. C'est un peu un objectif qu'il vous a fixé. Donc, c'est des moyens considérables. Et dans le même temps, on voit aujourd'hui que les pays émergents, dont vous parliez précédemment, ou les pays pauvres même aujourd'hui, sont sous quasiment alerte de la Banque mondiale pour des situations d'endettement extrêmement importants. La Banque mondiale a dit qu'il y avait 7 000 milliards de dollars de dettes autour de grands pays, notamment parmi eux, on a l'Éthiopie, dont on a parlé au début, dont la dette a explosé de 885% ces dernières années. Après, on a le Ghana, où vous êtes présent, 395% d'endettement. Et puis la Zambie avec 521% d'endettement. La Banque mondiale et le FMI disent que quasiment c'est des bombes à retardement, ces pays qui sont surendettés. Et vous allez avoir encore plus de budget à leur proposer pour s'endetter à nouveau. Donc comment réconcilier les deux entre vos objectifs d'un côté où Emmanuel Macron veut vous donner plus de moyens et en face l'explosion de la dette de pays qui, si une crise économique survient, ne pourront jamais rembourser et vont avoir un peu la corde au cou.
Alors vous avez raison, on a beaucoup grossi, donc on a doublé la capacité financière de l'AFD depuis quelques années pour atteindre à la fin de cette année 14 milliards. Donc
ce qui veut dire presque un quart de budget de la Banque mondiale.
14 milliards, oui c'est ça.
C'est plus que
50.
C'est plus que des ministères en français. C'est pour parce qu'on se rend pas compte ce que c'est 14 milliards.
C'est une la culture très clairement. Très clairement.
Non mais vous êtes plus puissant que le ministère de la coopération, surtout qu'il n'existe plus d'ailleurs.
C'est une vraie capacité financière. Alors là vous avez raison, c'est pour répondre à votre question, il faut choisir l'instrument financier qui correspond à la richesse du pays, à sa situation financière. Donc il y a des pays où on peut faire des prêts, encore, bien sûr, et il faut parce que ça fait du volume, et puis il y a des pays où il faut faire que des dons. Donc typiquement, en Éthiopie, on fait très attention, et on augmente nos interventions en dons, en subventions, et on est très mesuré sur nos interventions en prêts. Et puis après, attention, quand vous parlez surtout de pays africains, l'Afrique n'est pas endettée. Les gouvernements africains sont endettés, mais les économies des pays africains ne sont pas endettées. C'est le continent du monde qui porte le moins de dettes.
Avec plusieurs pays émergents.
Et donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Il faut se modérer dans les prêts aux gouvernements, mais il faut ouvrir des canaux financiers vers les entreprises, vers la société civile,
oui,
vers les collectivités.
Mais qu'est-ce que nous faisons vers les gouvernements, vous ?
Non, nous, l'AFD a une caractéristique, c'est que la moitié seulement de ses financements passe par les canaux des gouvernements des pays où nous intervenons. Et tout le reste, les 50 autres pourcents, passe par tous les autres
les acteurs.
C'est possible.
Mais on
ONG
sent quand même dans ce que vous décrivez deux logiques. Il y a une logique de prêt, c'est d'ailleurs des prêts bonifiés, on va pouvoir y revenir. Et puis il y a une logique plus APD, comme on disait, c'est-à-dire aide publique au développement. Oui. C'est ce que vous demande d'ailleurs le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Et vous, d'ailleurs, il vous transfère une partie de ses fonds. Vous allez récupérer Expertise France, cette petite agence, en fait, qui faisait de l'expertise.
Assistance technique.
Et que vous allez manger tout cru parce qu'elle est très endettée et qu'elle a du mal à survivre.
Non.
C'est une manière de la sauver aussi.
Non, l'idée c'est d'avoir dans le même groupe, le groupe AFD, en fait, tous les instruments. De telle sorte qu'on ne fait pas la politique de ces instruments.
C'est-à-dire les prêts, les subventions et l'expertise.
Les prêts, les subventions, l'expertise, la recherche aussi. On fait beaucoup de recherche de telle sorte que, en fonction du problème qui vous est posé, vous trouviez le bon instrument. Et notamment, la dette en soi n'est pas mauvaise. La question, c'est que finance la dette ? Si vous financez un projet qui crée de la richesse, de la valeur, il remboursera la dette qui lui a été allouée et tout se passera bien. Donc il faut faire bien attention.
Prenons les différentes.
Vous avez raison, il y a deux logiques. Il y a une logique d'aide publique au développement. L'aide publique au développement, finalement, c'est financer ce que personne ne finance.
C'est de la coopération classique.
C'est des écoles dans le Sahel. Là, vous n'avez pas d'investisseurs privés pour investir dans des écoles dans le Sahel. La santé, la gouvernance. Et puis vous avez des secteurs, des acteurs, secteurs privés, qui sont plus proche, évidemment, de la rentabilité, de la création de richesses. Et donc là, il est tout à fait logique de les financer soit par des prêts, soit même en investissant directement dans une entreprise. Donc l'AFD est capable de faire tout ça.
Parlons des prêts, pour commencer. Donc des prêts bonifiés, c'est-à-dire au fond, vous offrez des prêts à des tarifs intéressants. Vous en attendez quoi ? Est-ce que, par exemple, les entreprises françaises doivent monter ces projets s'il s'agit de téléphériques, d'aéroports, de routes, tout ce que vous faites, ce qu'on appelle des aides délicates ? liées, ce que font par exemple des aides liées, ce que font par exemple les Chinois, ou déliées.
Les financements de l'AFD, pardon du jargon, hein, sont dits déliés, c'est-à-dire que la façon de procéder, nous finançons un acteur local, encore une fois un gouvernement, une collectivité locale, une banque, hein, une entreprise, et c'est celle-ci ensuite qui fait des appels d'offres pour avoir recours à...
Et qui peuvent donc ne pas être des entreprises françaises.
Il n'y a pas de condition fixe attachée au financement de l'AFD d'avoir recours exclusivement aux entreprises françaises.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un quoi, là, ça fait partie de l'influence, du coup, de la France? J'ai interrogé pour préparer cette émission quelques ambassadeurs qui peuvent avoir des critiques à votre égard en expliquant ces ambassadeurs pensent que, au fond, les intérêts français ne sont pas forcément, du coup, votre priorité.
Alors, on est très heureux quand une entreprise française... gagne un marché financé par l'AFD. Et il y en a beaucoup qui en gagnent et on est d'autant plus heureux que ça crée un lien et que c'est un investissement pour le long terme dans le pays où nous intervenons. Après, il faut bien comprendre, des fois on finance avec la Banque mondiale, avec d'autres.
Et donc il y a des règles internationales.
Vous ne pouvez pas dire que c'est une entreprise française qui va gagner à tous les coups. Et le gâteau est quand même plus gros, donc c'est plus intéressant.
Mais les Chinois, eux, appliquent d'autres critères.
Oui, mais les Chinois, jusqu'à présent, on essaye de les faire bouger. Hein, je l'explique dans ce livre. Mais les Chinois, pour l'instant, n'ont pas délié leur aide. Vous avez raison. Il faut qu'ils y viennent et qu'ils interviennent dans un jeu beaucoup plus collectif. C'est l'effort que nous faisons avec l'agence.
Le livre que vous venez de citer, j'aurais dû le faire avant, Rémy Rioux. Ça s'appelle Réconciliation. C'est apparu en juin dernier. C'est à la fois un parcours sur le travail de l'agence, mais aussi sur les projets. Et justement, je vous propose d'en découvrir un de ces projets. Pardon. Nous sommes à Medellín, dans le métro câble, qui a été construit justement avec l'aide de l'Agence française de développement. Alors, on est dans une cabine, alors que nous sommes en train de descendre. Un Colombien écoute de la musique.
On écoute quoi là?
On
parlait un instant du reggaeton. Lui, il me disait que le reggaeton colombien ne lui plaisait pas à cause des paroles vides de sens. Le rap, au contraire, ce sont des paroles qui ont une plus grande signification. Donc non, je n'écoute pas de reggaeton.
Et où est-ce que nous sommes là actuellement? On va d'où à où?
Nous sommes à Santo Domingo, dans le métro câble. En ce moment, nous descendons depuis la station Popular jusqu'à l'arrêt Acevedo. C'est le trajet de toute la ligne du métro câble de Medellín. Et donc, nous allons jusqu'à Acevedo, qui est le terminus.
Et vous prenez souvent le téléphérique comme ça pour rentrer chez vous?
Si, c'est comme le plus...
C'est celui que nous utilisons le plus, nous, les habitants de Medellín. C'est le moyen de transport que nous utilisons parce que c'est le plus rapide et il y a moins d'embouteillages qu'en taxi à cause du trafic des voitures.
Voilà, entretien réalisé à Medellín pour France Culture, traduit par Emmanuel Neza et Nathan Marcel Millet. Ce projet.
On y est allés tous les deux, c'est ça?
Voilà, on n'y était pas dans le même,
pas au même moment. Oui, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que
c'est magnifique.
C'est un projet très exemplaire. Bon, Medellín, tout le monde le sait, hein, c'était.
La capitale du crime.
400 morts pour 100 000 habitants, la ville la plus dangereuse du monde au début des années 1990. Et avec des inégalités
Pablo Escobar,
entre les gens qui habitent dans la vallée en bas.
Et Pablo Escobar et ses copains en haut.
Et voilà, les gens sur les pentes, là, incroyable, où sont les favelas. Et donc là, on a trouvé un maire, Monsieur Fajardo, à l'époque. Donc c'était pas le gouvernement colombien. Là, c'était une collectivité locale, la mairie de Medellín, qui a accepté un financement de l'AFD de 250 millions d'euros, donc une somme importante. Et avec ces moyens, on a fait le tramway là dans le bas de la ville, et puis surtout c'est plusieurs lignes de métro câble là, qui relie les favelas au centre-ville, qui ont recréé précisément, c'est 100% lien social, ça, c'est du lien social, et c'est 100% Accord de Paris, parce que évidemment, c'est pas polluant, c'est une technologie très bonne pour le climat.
Qui d'ailleurs se diffuse un peu partout.
Et je reprends votre point sur les entreprises françaises, et il se trouve que c'est une entreprise française qui a gagné un appel d'offres délié. Cette entreprise, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Poma, elle avait épuisé son marché, parce qu'elle avait équipé toutes les stations de sport d'hiver, des Alpes, des Pyrénées, et donc elle avait plus de boulot, et ils ont réinventé leur technologie à Medellín, et maintenant Medellín c'est devenu la vitrine de l'entreprise Poma. Ils emmènent leurs clients là-bas Et la beauté, c'est qu'on a maintenant de très nombreux projets utilisant cette technologie de métro câble en France. Donc c'est parti des Alpes, c'est allé en Colombie et c'est revenu maintenant à Toulouse, à Brest, etc.
Zoé Sfez.
La Colombie qui fait partie des pays à qui vous prêtez qui sont solvables, il y avait eu une critique d'ailleurs à un moment donné que vous prêtiez trop à des pays solvables. Ouais. C'était la logique finalement un petit peu post-crise financière de 2008. Vous avez l'air
Mais vous voyez, il y a l'utilité de ce projet.
Voilà, exactement. Mais donc la Colombie, l'Indonésie, très important pour la biodiversité. On l'a entendu, il y a cette espèce de question paradoxale. On ne sait pas si vous êtes là finalement pour défendre les intérêts des entreprises françaises ou pour donner gratuitement dans cette notion même de développement. Comment, et c'est une question que beaucoup de gens se parlent quand on parle spontanément de l'Agence française du développement, comment est-ce qu'on évite les effets pervers qu'il y a à avoir 14 ou 18 milliards d'euros à donner sur la table dans des pays où il y a des économies parfois fragiles ou peu structurées, qui pourraient, par exemple, et ça fait partie des effets pervers qu'on connaît dans le développement, se structurer uniquement parce qu'une aide est annoncée ou va être annoncée venant d'un pays comme le vôtre avec parfois des entreprises ou des collectivités qui vont accumuler les hashtags, les mots-clés pour obtenir de l'argent de votre part sur une économie qui finalement ne fonctionne pas vraiment. Comment est-ce qu'on évite ces fameux effets pervers, potentiellement déstructurés des économies dans des pays ?
Alors, les chiffres, hein, on a à peu près 2,5 milliards de ressources budgétaires chaque année.
Alors,
ce qui nous permet de... On va aussi chercher beaucoup d'argent à Bruxelles. Ça nous permet de faire des dons, notamment. Donc, il y a beaucoup de pays où on n'intervient que de cette façon. Et ces 2,5 milliards, on en fait, vous avez raison, 14 milliards après, en allant lever de l'argent sur les marchés financiers.
Et on rappelle que c'est des prêts pour une part, c'est-à-dire de l'argent qui est censé un jour
revenir.
Oui, absolument. Et après, vous avez raison, il faut absolument que les pays disposent de ressources fiscales, notamment, qui lèvent l'impôt de telle sorte qu'il n'ait pas une part d'aide internationale trop importante dans leur budget. Ça, vous avez raison, ce n'est pas très sain et ça arrive encore dans un certain nombre de pays pauvres ou des pays comme Haïti, par exemple.
Mais alors, prenons par exemple, pas très loin, l'exemple de Cuba, où vous avez un projet de réseau de trains ferroviaires. Là, vous faites un prêt, donc ce n'est pas a priori de la subvention, sauf que tous les critères de Cuba, Cuba ne les respecte pas, que les comptes sont opaques, aucune capacité à rembourser, etc. Alors, on est entre les deux, là. On est sur un prêt, mais
alors,
on est quasiment sur une subvention.
Je suis assez fier parce qu'on est la première agence de développement à être venue à Cuba au moment où, sous François Hollande, la situation politique et Obama qu'on a entendu.
C'était clarifié, oui.
C'est clarifié. On est encore d'ailleurs un peu les seuls et on fait attention d'ailleurs parce que vous savez, les États-Unis ont réactivé un certain nombre de sanctions en direction du pays. Et non, rassurez-vous, on applique. Vous savez, on a une banque aussi, donc nous, on applique toutes les procédures d'une banque pour vérifier qu'on a bien les comptes de la société à laquelle on prête. Et on applique, encore une fois, des critères environnementaux, sociaux, qui nous permettent de rendre des comptes sur l'effet de nos financements.
Emmanuel Paquette.
Alors, justement, deux questions. Il se trouve que vous n'êtes quand même pas le Père Noël, puisque vous faites beaucoup de bénéfices. Moi, j'ai calculé 680 millions de bénéfices en 3 ans,
oui,
sur le dernier
beaucoup,
exercice. C'est pas mal, quand même. Mais je viens de la presse.
Donc, pour moi, c'est énorme. Écrite.
115 millions sur le dernier exercice. Et par ailleurs, la Cour des comptes estime qu'il y a eu des grosses, fortes hausses de salaire entre 2010 et 2017, avec une masse salariale qui a explosé de 52%, avec 236 millions d'euros. Alors certes, les effectifs ont aussi grossi, de 47%.
Voilà,
mais la Cour des comptes dit quand même qu'il faut faire attention sur la rémunération des gens, visiblement, que vous embauchez, qui sont de plus en plus souvent des cadres, d'ailleurs.
Moi, je suis magistrat de la Cour des comptes, donc
j'ai plus grand respect pour cette institution.
Magistrat, mais vous avez quand même recruté pratiquement 1000 personnes récemment.
Alors non,
on vous envoie votre CV.
La vérité, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est une entreprise publique qui a doublé son activité. Donc, du coup, elle n'a pas doublé ses effectifs, loin s'en faut, mais il faut quand même plus de gens sur le terrain, auprès des acteurs, pour financer des projets. Donc on a mis beaucoup de gens sur le terrain. Et ces gens, non, c'est pas une maison qui paye si bien que ça les gens, donc rassurez-vous. C'est vraiment un effet volume, pour parler comme un économiste, donc le recrutement d'à peu près 1000 personnes quand même, depuis 3 ans. On va se calmer un peu maintenant, on est à la taille critique, je crois, on l'a atteinte, qu'un effet prix par augmentation des salaires.
Mais vous travaillez, par exemple, je suis désolée de poser la question, les gens que vous recrutez sont des cadres qui sont quoi, chefs de projet? Est-ce que vous travaillez avec des consultants?
C'est une arche de Noé chez vous, non?
Oui, c'est le mot que j'emploie.
Qui travaille pour vous, notamment en Libye. lobbies pour essayer de comprendre à qui on donne. Qui sont les, par exemple, quelle est la part de consultants, de chercheurs, de démographes, je ne sais pas, avec lesquels vous travaillez. Quelle est la part de ces contrats-là aussi dans votre travail, dans votre budget, pardon.
Il y a la deux logiques. Donc on a 2500, 3000 quand Expertise France aura rejoint le groupe l'année prochaine, salariés de l'AFD. Donc ça, c'est des CDI, des CDD. Et alors la beauté de l'AFD, c'est que vous devez répondre à des demandes très très diverses.
Hein, et puis des parfois, gens qui savent construire des ponts.
Et oui, on travaille en Chine et puis on travaille en République centrafricaine. Donc la demande qui vous est adressée, elle est aussi plus ou moins précise. Mmh. Et donc il faut être capable, des fois, de simplement financer un projet de qualité. Et puis souvent d'aller assez loin dans la construction du projet lui-même. Donc c'est une maison du coup qui a un éventail de compétences. C'est une maison de droit privé, hein, c'est des salariés de droit privé. Vous avez
un EPIC,
voilà. Vous avez des médecins, vous avez des enseignants, vous avez des ingénieurs de tout crin, vous avez des financiers, vous avez donc.
Mais ça veut dire qu'il y a plein d'AFD en fait.
Et par ailleurs, l'autre point, c'est pour répondre à votre question, c'est nous on se vit comme une plateforme, c'est-à-dire il faut qu'on ait cette capacité minimale pour délivrer ces 800 projets par an, mais il faut aussi qu'on soit capable de mobiliser chacun des écosystèmes techniques, financiers, en France et ailleurs, dans les pays. Et donc oui, on a recours dans nos contrats à de très nombreuses compétences externes.
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'AFD différentes finalement, en fonction des métiers et des pays.
Voilà, il y a une AFD qui a un mandat, qui a une panoplie d'instruments financiers, qui a un corps social, mais après, ses capacités s'appliquent différemment selon la richesse des pays et avec toujours la volonté de ne pas rester entre nous, c'est-à-dire de mobiliser d'autres financeurs, d'autres compétences, et d'abord en France, bien sûr.
Emmanuel Paquette.
Alors, de temps en temps, il y a aussi des scandales. Notamment, je pense à Abrage. Alors, je ne sais pas si je donne le terme comme il faut. Donc, un fonds d'investissement qui est basé à Dubaï et dans lequel, en fait, vous aviez donné de l'argent justement pour financer des hôpitaux au Nigeria, au Pakistan, en Inde et au Kenya. Il se trouve qu'aujourd'hui, le fondateur d'Abrage, donc Arif Naqvi, est accusé de fraude pour justement avoir capté l'argent, mais ne pas l'avoir dépensé. Alors, je voulais savoir si vous aviez récupéré votre argent. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, il y a une procédure en cours. Et d'autre part, comment se fait-il que de temps en temps, il y ait des fonds comme ça qui puissent capter une partie... Vous n'étiez pas les seuls, hein, d'ailleurs. Il y avait la Banque mondiale.
Oui, on était... Donc ça, c'est un investissement qu'a fait notre filiale que je mentionnais tout à l'heure, qui s'appelle Proparco, donc qui est l'instrument qui finance le secteur privé, y compris des fonds d'investissement, comme le fonds Abrage. Et alors, effectivement, il y a une procédure en cours, donc je ne vous donnerai pas tout le détail, évidemment, mais c'est plus retracé. En fait, c'est des fonds où il y a différents sous-fonds ensuite, et les gestionnaires ont fait passer de l'argent d'un fonds à un autre, et on a un petit peu de mal, je crois, jusqu'à présent, à retracer l'ensemble des flux. Mais on est tous avec, effectivement, la Banque mondiale, la SFI, enfin les autres bailleurs de fonds qui sont impliqués dans cette affaire. On est très attentifs à retrouver notre argent, évidemment, qu'on n'a pas perdu, hein, je pense, d'ailleurs.
C'était 9,2 millions d'euros, je crois.
Oui, oui.
De mémoire.
Vous êtes aussi... en train de vous engager dans un nouveau secteur, et ça concerne cette émission, à savoir les industries culturelles, un peu les médias et le numérique. Je crois que c'est le ministère des Affaires étrangères qui vous a notamment incité, sollicité pour aborder ces sujets. Vous le faites sans doute avec un certain intérêt, des compétences nouvelles peut-être à devoir chercher. Oui. C'est une nouvelle mission pour l'AFD ?
Non, je crois que c'est la même mission. Pour moi, les industries culturelles en particulier, le sport aussi, hein, dans la plupart des pays du monde, c'est 2 à 3% du PIB, hein, donc c'est beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses. Il se trouve qu'en Afrique, c'est 1% du PIB seulement. Donc il y a un effort d'investissement à faire pour libérer ce potentiel de création d'emplois. Enfin, c'est déjà 2 millions d'emplois, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Afrique. Et donc, il y a une zone là d'investissement qui est absolument essentielle. Et j'ajoute à ça, évidemment, on en a parlé sur l'Éthiopie, que la culture, les musées, là, il y a tout le débat sur la restitution des biens culturels dans lequel nous avons notre part pour que les biens qui circuleront, restitués soient bien accueillis, par exemple.
C'est-à-dire que le musée qui les recevra soit capable de les conserver, quoi.
Ben exactement. Donc j'ai parlé du palais du Jubilé en Éthiopie, mais on a aussi un projet à Bomé, vous savez, le palais des rois d'Abomé où les 26 œuvres du colonel Dodds vont être bientôt restituées.
restituer, il faut que ce soit bien fait.
Parce que ça fait partie Yaoundé. Des éléments cruciaux du débat sur les restitutions culturelles.
Et donc, la culture, c'est du développement, à la fois parce que c'est de la richesse, de la création de valeur, et puis aussi parce que c'est un élément essentiel d'une identité nationale, d'une fierté nationale, qui est un ferment, un accélérateur de développement.
Un autre projet, c'est tout ce qui tourne autour du sida. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce jeudi à Lyon une augmentation de 15% de la contribution de la France à ce qui s'appelle le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Là, vous intervenez également et au fond, en fin de compte, avec aussi d'autres acteurs, je pense à la taxe sur les billets d'avion, mais aussi d'autres institutions, l'OMS, mais aussi beaucoup d'autres, 32 millions à peu près de personnes sont en vie actuellement, alors qu'elles sont malades du sida ou séropositives. Quel est le rôle de l'AFD dans ce multilatéral très complexe?
Vous donnez le Fonds mondial sida, c'est le legs, l'héritage de Jacques Chirac. Hein. À une époque déjà, au début des années 2000, les années sida, hein, on vit les années climat aujourd'hui, hein, qui était déjà une première prise de conscience d'un problème mondial. Et donc là, on a créé un instrument puissant pour distribuer finalement les trithérapies jusqu'aux personnes les plus fragiles. Et donc la bonne nouvelle, ce qui s'est passé à Lyon, c'est que tous les pays se sont engagés à augmenter de 15%, 14 milliards de dollars, pour les trois prochaines années, la taille de ce fonds, y compris la France, par la voix du président Emmanuel Macron. Après, ça c'est un fonds, vous voyez, qui depuis Genève diffuse
verticalement
des médicaments. C'est très important, et ça c'est le rôle de l'Agence française de développement, que dans chacun des pays, vous ayez un effort là plutôt horizontal.
Avec les hôpitaux, les centres de soins.
Renforcer les systèmes de santé. Parce que, évidemment, les gens sont malades de ces trois maladies, mais aussi d'autres maladies. Et donc, il faut que ces médicaments arrivent dans un système qui fonctionne bien, où on peut faire des analyses médicales, où on a des hôpitaux qui fonctionnent, et ça, c'est notre travail.
Un mot sur l'Amazonie. On ne peut pas évoquer tous les projets. Vous avez dit qu'il y en a plus de 800. Donc, sur l'Amazonie, il y a une initiative. Et là, encore une fois, comment on fait? On contribue à la biodiversité, on lutte contre les incendies.
Alors l'année prochaine, ça va être une vague. On parle beaucoup du climat, hein, évidemment. L'année prochaine, ça va être une année en Chine, notamment à Marseille aussi, où il y a un grand congrès où les questions de biodiversité vont être révélées, hein, je pense, au grand public, parce que c'est probablement une menace liée d'ailleurs, hein, une menace qui est aussi forte et terrible.
Vous avez un projet en Indonésie beaucoup aussi sur ça.
Alors nous, depuis, oui, on intervient beaucoup sur la protection d'espaces, donc des réserves naturelles, et ça on le fait depuis longtemps. Maintenant, tout le sujet, et c'est bien la question en Amazonie, c'est comment on change les chaînes de valeur en fait. Comment on fait en sorte que les entreprises, que les populations, les 20 millions de personnes qui vivent dans la forêt amazonienne, choisissent ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature plutôt que des modes de produire et de consommer qui accélèrent la réduction de la biodiversité. Donc ça, ça a l'air un peu théorique, mais beaucoup de gens sont en train d'inventer des solutions et du secteur privé aussi, hein, qui protègent la nature en même temps qu'elles permettent de la croissance économique et du bien-être pour les populations.
Je termine avec une question posée par un ambassadeur. Vous voyez, je les ai interrogés, ils voulaient vous poser des questions comme ça à travers moi. Quand on interroge au MAE, on estime au fond, je cite des personnes avec qui j'ai parlé, que vous êtes trop puissant, que vous obéissez pas à votre tutelle, même si ils reconnaissent que le ministère n'a plus forcément les compétences sur ces sujets. Bref, que vous êtes trop indépendant. Alors, au niveau de la relation, quelqu'un me dit, c'est pas un rapport hiérarchique, mais un rapport d'autorité. Voilà, alors il faut comprendre, entre l'ambassadeur et vos agences, dont au fond, ils considèrent que les directeurs de l'AFD sont les conseillers développement de l'ambassadeur. Question posée par un de ces ambassadeurs, comment voyez-vous la trajectoire de l'AFD sur le plan budgétaire, sachant que vous récupérez une partie de l'aide publique au développement et donc Expertise France, avec qui vous allez fusionner?
Bon, nous, on est bien sûr un instrument de la politique international de la France. Dans le livre, j'explique qu'il y en a trois, en fait. Ce qu'on appelle les 3D.
La défense,
ça c'est ce qui permet la séparation des gens, hein, quand ils se bagarrent. Vous avez la diplomatie, c'est ce qui permet la pacification, fixer le cadre dans lequel les gens vont pouvoir vivre ensemble quand il y a eu une crise.
Et puis vous avez besoin d'un troisième instrument qu'on avait un petit peu oublié, à dire vrai, depuis 10 ans en France. Donc moi je bouge les bras un peu, je m'agite pour qu'on s'en souvienne. Parce que cet instrument, je crois, j'espère vous en avoir convaincu, il est essentiel compte tenu des enjeux actuels. C'est l'instrument de développement. Et qu'est-ce qui libère le développement? C'est la proposition de mon livre, il libère un troisième valeur, un troisième gain, c'est des réconciliations. C'est-à-dire, c'est l'instrument qui permet de faire des liens entre les acteurs et de les inscrire dans la durée.
Rémy Rioux, le troisième D de la France à l'international.
Auprès des ambassadeurs, bien sûr.
Conseiller de l'ambassadeur, voilà.
Évidemment.
Réconciliation, c'est le titre de votre livre, Rémy Rioux. Réconciliation dans la collection Débat public. On se quitte, cette émission touche à sa fin. Vous pouvez, pour aller plus loin, trouver références et articles sur le site de France Culture, émission Soft Power. On se quitte d'ailleurs avec Ibrahim Malouf, hein, une seconde fois ce soir, le titre Radio Magellan, en espagnol Magallanes. Et on en reste là pour ce soir. Merci infiniment, Rémy Rioux, d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, on parlera dans Soft Power du Forum de Paris pour la paix. Je recevrai Justin Weiss, son directeur. Dans un instant, Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Merci Emmanuel Paquette, Zoé Sfez en attendant.
Merci.
Merci à tous, bonsoir. Et bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.
France Culture, l'esprit d'ouverture.